La dernière fois que j'ai pris la parole ici, on a vu ensemble le dernier discours public de Jésus qui nous est rapporté dans l'Évangile selon Jean. Et ce texte nous a fait aborder les exigences de Jésus envers ses disciples. Et en me réécoutant, pour mettre ça au propre, j'étais un peu déçu du travail accompli. Et entre-temps, j'ai commencé à lire un livre tout à fait extraordinaire, un livre d'un homme dont vous connaissez, je crois, au moins le nom, un certain Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer était un pasteur luthérien qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle et qui est connu pour être mort dans les geôles nazis en 1945, quelques semaines avant la capitulation, et dont la fin de vie a été marquée par cette lutte contre le nazisme, et pour ça il est encore connu. C'est un homme assez remarquable, et en 1937 il a écrit un livre qui s'appelle en allemand Nachfolge. Nachfolge est un mot qui n'a pas d'équivalent en français, mais son livre a été traduit. Il existe en français sous le titre « Le prix de la grâce ». C'est un livre tout à fait extraordinaire. Si vous cherchez une lecture pour l'été qui vous mettra les pieds à l'étrier, je vous le recommande, pour ne pas dire qui vous mettra un coup de pied là où je pense. Et donc, si ça vous tente, essayez-le. Mais je vous garantis, si vous le posez, vous ne serez plus le même que quand vous l'avez commencé à lire. Et aujourd'hui, j'essaierai de résumer en quelque sorte ce que Bonhoeffer enseigne dans le deuxième chapitre de ce livre. Un des textes de l'Évangile, des Évangiles, qui m'ont tout à fait remarqué et que je ne lis jamais sans émotion, c'est un verset apparemment de rien du tout, dans l'Évangile selon Marc, que voici, où il nous est dit: en passant, il, c'est-à-dire Jésus, vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des taxes, et lui dit: suis-moi. Celui-ci se leva et le suivit. Tout se passe ici si vite qu'on a à peine le temps de comprendre ce qui se passe. Jésus arrive, il voit Lévi, assis au bureau des impôts, il lui dit deux mots, suis-moi. Il s'en va et Lévi se lève et le suit, abandonnant sa vie antérieure. Ces événements sont d'une telle radicalité que les petits bourgeois que nous sommes pour la plupart ici avons du mal à les intégrer. Comment est-ce possible que quelqu'un, juste pour deux mots qu'il reçoit, se lève et quitte son existence, son métier, sa vie passée, pour suivre un autre homme dont il ne connaît apparemment rien du tout? On a du mal avec ça. On aimerait bien se rassurer. On se dit, oh non, c'est pas possible. Il a dû le connaître avant. Il a peut-être été au courant de l'enseignement de Jésus. Mais force est de constater que l'Évangile ne suggère rien du tout de cela. Tel que Marc nous présente cette histoire, on a toute raison de penser que Lévi ne connaissait pas Jésus à ce moment-là. Mais quand Jésus vient, le regarde et lui adresse cet appel, Lévi ne peut que suivre. L'appel entraîne l'obéissance. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et la réponse, je crois, c'est que c'est possible seulement à cause de celui qui appelle. Parce que ce n'est pas une situation ordinaire, et cet homme qui l'appelle n'est pas un homme ordinaire. C'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu venue sur terre. Et cette parole qui s'adresse ici à Lévi, c'est cette même parole par laquelle l'univers tout entier a été créé. C'est une parole d'extrême autorité qui résonne ici. Et Lévi, il se voit, j'oserais presque dire, contraint de la suivre. Et d'ailleurs, le texte ne loue absolument pas Lévi pour sa foi radicale ou pour son engagement extraordinaire. Non, nos regards ne sont pas concentrés sur Lévi, nos regards se tournent vers celui qui l'appelle. Lévi n'adopte pas un système religieux particulier ou des idées religieuses nouvelles ou quelque chose comme ça. Non, ça, il aurait pu le faire tout en restant assis à son bureau, bien entendu. Ce n'est pas seulement un changement intellectuel ou quelque chose de ce type-là. Non, non, il décide de suivre quelqu'un. Et de ce fait même, il est obligé de se lever. Ce quelqu'un, il est là, il l'appelle et il s'en va. S'il veut rester avec lui, il doit bien entendu se lever et le suivre. Donc Lévi abandonne l'apparente sécurité de sa situation antérieure en échange d'une apparente insécurité, c'est vrai. Mais quand on sait qui est Jésus, quand on sait qui c'est qu'il appelle, on sait aussi qu'il ne peut, dans ce monde et nulle part ailleurs, pas avoir d'endroit plus sûr que celui qui est à côté de celui qu'il appelle là, à côté de Jésus. Mais notez-le bien, ce que fait Lévi là, il le fait en réponse à l'appel. Et ce n'est pas une voie que l'on pourrait choisir de son propre chef. Et à ce dé-là, il y a trois petites scènes qui nous sont rapportées dans l'évangile de Luc, qui sont fort, fort intéressantes à cet égard. Trois petites scènes de vie un peu semblables, trois candidats qui se posent la question s'ils vont suivre Jésus ou non. Et là, ça se passe moins bien. Alors, lisons-le. Alors qu'ils étaient en route, quelqu'un lui dit, bien entendu à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Celui-ci lui dit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Il lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, va-t'en annoncer le règne de Dieu. » Un autre lui dit, « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ceux de ma famille. » Et Jésus lui dit, « Personne qui met la main à la charrue puis regarde en arrière ne convient au règne de Dieu. » Donc il y a là trois candidats confrontés d'une manière ou d'une autre à la question de suivre Jésus. Alors le premier candidat, c'est très intéressant, le premier candidat, il n'a pas reçu d'appel de Jésus. Il se propose de lui-même. Et il y a là un enthousiasme certain. « Je te suivrai partout où tu iras. » On rêverait de voir des gens comme ça se pointer et dire « Voilà, je m'engage à suivre Jésus. » Mais curieusement, Jésus ne semble pas donner suite. Il étire le regard de son interlocuteur sur la grande difficulté de son existence. L'existence de Jésus, elle est marquée par des renoncements, par de la souffrance aussi, vous le savez bien. Et, sous-entendu, le disciple ne peut pas s'attendre à un meilleur traitement que son maître. Donc, on ne peut pas choisir une vie comme ça, tout seul. Il faut y être appelé pour pouvoir tenir bon. Personne ne peut s'appeler lui-même. Et ainsi, l'offre enthousiaste de notre premier candidat semble rester sans réponse, même si nous ne connaissons pas exactement ce qui s'est passé par la suite. Le deuxième candidat est dans une autre situation. Il est plus dans une situation comme Lévi. Et Jésus lui adresse exactement le même appel. « Suis-moi, lui dit-il. » Mais, comme vous l'avez vu, contrairement à Lévi, il soulève un problème. Il dit « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Donc il invoque une obligation qu'il a par ailleurs. Une obligation qui a son fondement d'ailleurs dans la loi, dans les 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Et enterrer son père, c'est lui rendre l'ultime honneur, je dirais. Et donc, ça semble, a priori, une requête tout à fait recevable que celle-là. Mais, Jésus insiste, non. Quand je t'appelle, dis-toi me suivre. Et laisse les morts enterrer les morts. En quelque sorte, quand je t'appelle, rien ne doit s'interposer entre toi et moi. Je t'ai adressé mon appel, rien ne doit s'interposer, fût-ce même un commandement. Même la loi ne doit pas se poser entre nous. Quand je t'adresse mon appel, tu dois me suivre et pas invoquer d'autres choses. Rien ne serait plus important, même pas la loi. Le troisième candidat, alors là c'est un peu moins clair s'il a été appelé par Jésus, mais tel que le récit se présente, j'ai l'impression que Jésus lui a aussi adressé cet appel, mais lui il répond un peu comme le deuxième, mais pas tout à fait. Lui il objecte autre chose. Il dit, permets-moi d'abord de faire mes adieux à ceux de ma famille. Donc là, ce n'est pas la loi qui s'interpose entre lui et Jésus, mais c'est une convenance personnelle. Il a de la place pour Jésus dans son agenda, peut-être même une place importante. Mais il a d'autres choses, et il a autre chose encore à faire avant. Il a envie de faire encore, avant d'aller avec Jésus, il a envie de faire quelque chose. Et Jésus lui dit clairement, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas plus que le deuxième qui invoquait la loi, cette convenance personnelle serait justifiée une réponse décalée par rapport à l'appel de Jésus. Quand je t'appelle, tu viens ou tu viens pas. Mais n'invoque pas autre chose qui se poserait entre nous. Ça nous étonne par sa radicalité. Ça nous gêne peut-être d'entendre ça dans la bouche de Jésus. Mais c'est ça le Jésus des évangiles aussi. On a tort de mettre de l'eau dans le vin de l'évangile. Et maintenant, revenons à Lévi, qui lui a réagi comme il fallait, qui a donné la bonne réponse, la réponse adéquate à Jésus, l'obéissance immédiate, sans condition, sans mais, sans permets-moi d'abord. Non, quand Jésus appelle, il l'a suivi. Et on peut se poser la question, à partir de quel moment Lévi est-il un disciple ? Alors, nourri au râtelier du protestantisme, comme nous le sommes pour la plupart, nous aurions envie de dire, à partir du moment où il croit, très bien, mais à partir de quel moment croit-il? Il faut croire pour obéir. Il faut que Lévi ait un peu de foi, tant soit peu de foi pour se mettre en route. La foi d'abord, les œuvres après, comme expression de la foi. Vous êtes sauvés par la foi, pas par les œuvres, n'est-ce pas? Cette vérité biblique nous est chère. Comme elle l'a été aux réformateurs qui l'ont redécouvert. Il faut croire pour obéir, certes. Mais en même temps, et c'est ça qui est peut-être plus surprenant, il faut obéir pour croire. Il ne faut pas que notre affirmation du salut offert à la foi nous amène à dissocier la foi et l'action qui en découle. Comme s'il pouvait y avoir une foi sans obéissance. La foi n'existe pas sans obéissance. La foi sans les œuvres est morte, dira Jacques. Et Bonhoeffer le dit à sa manière, celui qui n'est pas obéissant, dit-il, ne peut pas croire. Le premier pas de Lévi est drôlement important, car c'est lui qui lui permet de croire. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il offre? Est-ce qu'il a hauteur de ce qu'il promet? Pour le savoir, il n'y a qu'un seul chemin. Il faut le fréquenter, il faut passer du temps avec lui, il faut le connaître. Et comme Jésus est un homme en mouvement, il faut le suivre. Le chemin qui mène à la foi passe par l'obéissance à l'appel du Christ. Et c'est même le seul chemin qui nous y mène. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut affirmer les deux côtés du paradoxe. Seul le croyant est obéissant, et seul celui qui obéit croit. Il y a là quelque chose que nous avons déjà vu dans notre étude de l'évangile de Jean, où Jésus dit, chapitre 7, « Si quelqu'un veut faire la volonté du Père, il saura si cet enseignement vient de Dieu. » Autrement dit, il faut faire le pas de l'obéissance pour être réconforté dans sa foi, pour que cette foi puisse s'épanouir, puisse grandir et amener d'autres œuvres par la suite. Il faut entrer dans un cercle vertueux qui vous amène peu à peu à la connaissance de Dieu. Oui, ce premier pas, il est excessivement important. Il compte beaucoup. Parce que si Lévi résiste, s'il ne se lève pas, il étouffe l'embryon de la foi. Il ne lui permet pas de croître. C'est tragique. Mais ce n'est pas si rare que ça. Je ne sais pas si vous en avez croisé dans les églises. Moi, j'en ai vu quelques-uns de ces éternels sympathisants. C'est ces gens-là qui viennent, parfois tous les dimanches, peut-être parfois toute leur vie, hein, qui écoutent gentiment, qui sont très intéressés, qui vont remercier le prédicateur de son discours intéressant, hein, et qui viennent, et qui écoutent, et qui viennent, et qui écoutent, mais ça ne débouche jamais. Et jamais ils feront cette démarche de la foi, de cette confession de foi, de ce premier pas, hein, pour s'engager derrière Jésus. Mais Jésus ne veut pas des sympathisants, il veut des disciples. Il les appelle, les Lévis de ce monde, à être obéissants, à le suivre, à faire ce pas. Et s'il y a un récit dans les évangiles qui souligne l'importance de ce premier pas, c'est l'histoire que vous connaissez sans doute, l'histoire du jeune homme riche. Une histoire qui nous est racontée dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et on va lire ensemble la version que nous en donne Matthieu. Alors, quelqu'un s'avança et lui dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il répondit, « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne rendras pas de faux témoignages. Honore père et mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Qu'est-ce qui manque encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans les cieux. Ensuite, viens. » Et suis-moi. » Ayant entendu cette parole, le jeune homme s'en alla chagriné, car il avait beaucoup de biens. Le jeune homme qui interroge Jésus, il se pose une question importante, peut-être pourrait-on dire la question la plus importante qui soit, celle du salut. Mais il s'y prend mal. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » dit-il à Jésus. Et chez Luc et Marc, la question est posée un peu différemment. « Bon maître, dit-il alors, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Alors là encore, on pourrait se féliciter que ce jeune homme pose cette question en ces termes. Hein? Mais Jésus, la réponse de Jésus suggère, me semble-t-il, qu'il y a un problème. « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon, à savoir Dieu. » L'approche semble pas être la bonne. Pourquoi ? Parce que notre jeune homme, il vient débattre avec un théologien qu'il reconnaît comme être un homme de qualité pour débattre du salut. On va avoir une discussion théologique sur ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus semble pas être très satisfait de cette approche-là. Parce que cette question-là, en fait, ce n'est pas une question qui se prête à un débat théologique. On pourrait dire la question est trop sérieuse pour être confiée qu'à des théologiens. Non, cette question le pose directement en face de Dieu. Parce que qui donne la vie éternelle ? C'est Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ? Et pour avoir la réponse, il faut écouter Dieu. Ce n'est pas un sujet qu'on discute entre collègues. Non, il faut écouter Dieu, parce que c'est le seul qui pourra donner la réponse à cette question. Et donc Jésus, logiquement, il le renvoie vers les Écritures. Il le renvoie vers les commandements. Si tu veux entrer dans la vie, dit-il, observe les commandements. Tu as déjà parlé, il a déjà dit ce qu'il veut que tu fasses pour que tu puisses avoir la vie. Et du coup, le jeune homme apparaît dans une lumière un peu ambiguë. Les commandements, il les connaît. Pourquoi ne peut-il pas s'en contenter ? Pourquoi faire comme s'il ne connaissait pas la réponse à sa question, comme si elle n'était pas dans l'Écriture ? N'est-ce pas accuser quelque part Dieu d'avoir laissé un flou sur cette réponse ? C'est une question qui finalement ne l'engageait à rien. Jésus le ramène à la simple obéissance vis-à-vis des commandements. Mais le jeune homme abandonne pas encore. Il dit, Lesquels? Alors là, ils s'enfoncent. Parce que, pour ne faire, il observe ici, et je crois qu'il a raison de dire, vous avez là un homme qui essaie de fuir. Bien sûr, il connaît les commandements. Mais comment savoir dans leur grande multitude lequel il faudra pratiquer? Lequel s'adresse plus particulièrement à lui? Notre homme se présente comme un peu pris dans le conflit éthique entre toute cette foule de commandements. Et voilà, à quoi je dois obéir exactement pour avoir la vie? Il suspend en quelque sorte son obéissance simple en faisant voir son besoin d'explication, d'interprétation, de clarification. Mais ne nous y trompons pas, c'est un refus d'obéir. La simplicité de l'obéissance, cette obéissance d'un enfant, fait place à la duplicité de la pensée et à des débats théologiques. Le doute s'installe là où la foi devrait se loger. Et ça devient assez clair dans la réponse de Jésus qui cite un certain nombre de commandements. C'est comme s'il disait, ne te perds pas dans des questionnements, obéis plutôt. Mais le jeune homme ne rend pas encore les armes. Tout cela, je l'ai observé, dit-il, qu'est-ce qui me manque encore? Certes, les commandements, c'est bien, il faut obéir, mais ça ne peut pas être tout. Il doit y avoir quelque chose de plus, un supplément spirituel. C'est ça qu'il veut pratiquer. C'est un peu comme si le commandement de Dieu était encore incomplet. Donc cette acceptation apparente du commandement, elle comporte en fait une attaque frontale des commandements. Il n'empêche, l'évangile de Marc ajoute ici, Jésus le regarda et l'aima. Il voit à quel point ce jeune homme s'est enferré, résiste à la parole de Dieu dans ses exigences, à l'obéissance simple. Et il veut l'aider à sortir de cette prison dans laquelle il s'est enfermé. Et c'est pourquoi il répond, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux. Ensuite, viens et suis-moi. » Donc notez maintenant, Jésus se met lui-même au centre de la scène. Il ne renvoie plus vers le commandement de l'Écriture. Il renvoie le jeune homme vers sa propre personne. Parce que ce qui couronne l'observation des commandements de la loi, c'est le fait de suivre Jésus. Les commandements pointent vers le Christ. Mais maintenant, il n'y a plus lieu de se cacher derrière le conflit éthique. Le commandement qui tombe, il est sans ambiguïté. Suis-moi. Mais il ne s'agit pas d'une aventure de plus, d'un voyage première classe vers le salut. Un supplément pour âme forte. Non, c'est un chemin sans retour. C'est un engagement total qui est demandé. Et pour notre jeune homme, cet engagement total passe par l'abandon de ses richesses. Sans doute Jésus voyait-il que c'était là que le bât blessait chez le jeune homme. Son amour des biens, c'est comme le dit Paul, c'est une idolâtrie. Il faudra en guérir pour pouvoir suivre Jésus. Et ce sera pour lui l'équivalent de ce qu'il a été pour Lévi de quitter sa table au bureau des impôts. C'est le premier pas qui inaugure la vie de disciple. C'est l'obéissance qui engage le jeune homme dans le cercle vertueux de la connaissance de Dieu. Et je laisse la parole de la fin à Bonhoeffer, qui dit la chose suivante. Le jeune homme demandait son chemin pour parvenir à la vie éternelle. Jésus répond, je t'appelle, c'est tout. Le jeune homme cherchait une réponse à sa question, et cette réponse, c'est Jésus-Christ. Il voulait entendre la parole du bon maître, et le voici qui s'aperçoit que l'homme qui l'interrogeait est lui-même cette parole. Le jeune homme se tient devant Jésus, le Fils de Dieu. C'est une rencontre totale. Il n'y a plus qu'une chose à faire, dire oui ou non. Obéir ou refuser d'obéir. La réponse du jeune homme est non. Il s'en alla tout triste, il se vit déçu, trompé dans son espérance, et il ne put pas abandonner son passé. Il avait beaucoup de bien. L'appel à l'obéissance ne reçoit ici d'autre contenu que Jésus-Christ lui-même. Être lié à Jésus, en communion avec lui, il ne s'agit pas de vénérer avec enthousiasme un beau maître, mais d'obéir au Fils de Dieu. Telle est l'existence de celui qui suit Jésus. Si nous voulons hériter de la vie éternelle, comme notre jeune homme, il n'y a qu'une seule voie. Répondre à l'appel de Jésus-Christ et le suivre. Et c'est ma prière que lorsque cet appel se fera ressentir chez chacun d'entre nous, que nous ayons le courage de Lévi, de nous lever et de laisser tout le reste de côté. Dans l'Évangile, nous entendons le Christ nous dire « Ne tergiverse plus, obéis simplement. Je te veux sans mais, ni condition, ni réserve, ni subterfuge, ni faux fuyant. Je t'appelle et cela te suffit. Suis-moi. » Amen.